Bonjour à tous ceux qui écoutent, si vous êtes plus de 1, c'est déjà pas mal.
Salut. Bonsoir et bienvenue
dans notre monde. Ce monde où il est permis de tout faire et de tout dire. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter.
Ça fait énormément plaisir de vous retrouver, chers auditeurs.
Bienvenue aux nouveaux écouteurs, aux nouveaux arrivants.
On vous aide, détendez-vous, mettez-vous à l'aise.
Et bonsoir à tous.
Alors, avant de commencer par le thème que je vais aborder aujourd'hui, qui est la colère, je voulais déjà te dire un grand merci par rapport à la façon dont tu as accueilli mon retour. Merci, c'était super gentil à toi. Et je voulais aussi te dire merci pour les messages que tu m'as envoyés. Alors, je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça va rester entre toi et moi, mais franchement ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y en a certains qui m'ont fait du bien et ça fait voilà, sentir qu'on n'est pas tout seul, c'est cool. Voilà, bon, je vais pas plus loin, mais voilà, merci, franchement merci.
Est-ce qu'il y a des critiques ou des guides que tu crains, justement ?
Je sais pas si on craint. On les attend, et puis moi je lis toujours avec beaucoup d'intérêt les critiques. Il faut pas. En fait, il faut jamais prendre les critiques positives ou négatives de manière personnelle. Une critique négative dans un journal même très diffusé, c'est sûr que c'est jamais bon pour le restaurant. Maintenant, elles nous font aussi progresser en fait. Et quand on a une critique négative, ben on se réunit, on en parle et on essaie de voir ce qu'elle est pas et de voir ce qu'on peut améliorer.
2017 a vu arriver toute une flopée de nouveaux podcasts avec plein de nouveaux podcasteurs et podcasteuses à leur tête. Selon les chiffres de notre collègue Thierry Lair, qui a tout bien compilé et bravo à lui parce que c'est un gros boulot, 436 podcasts ont été créés en 2017. Il faut quand même noter que malheureusement, parmi ces 436, 148 se sont éteints, dont 77 qui venaient d'être créés cette même année. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais il faut retenir qu'il y a eu une grosse, grosse effusion.
Voilà. Vous allez vous connecter tous ensemble sur le web mental. Vous allez cliquer www.bonheur.com et cette page, dans votre esprit, elle ressemble exactement à ce que vous voulez qu'elle soit. Pour certains, cela sera un paysage de plage. Pour d'autres, une montagne enneigée, près des sommets du mont Fujiyama. Et doucement, vous sentez la chaleur du soleil atteindre votre peau et vous n'entendez plus les ambulances, vous n'entendez plus la pollution sonore. Juste un groupe d'amis en 2017. Dans quelques siècles, nous serons tous morts. Poussière semée au vent, avec peut-être un wallet Bitcoin quelque part sous des linges.
Il y a aussi une question que plus tu avances, plus ce qui reste à miner est compliqué en fait.
En fait, non, plus tu avances, plus la rémunération pour le minage diminue au fil du temps. Mais de toute façon, c'est une monnaie plafonnée.
Oui, et ça veut dire que l'énergie dépensée pour pouvoir croître en fait ton gain devient de plus en plus colossal. Et d'ailleurs, à tel point qu'on considère, entendons-nous bien, que l'arrivée de ce Bitcoin, ça a créé un nouveau pays virtuel qui émet des gaz à effet de serre. Et donc, pour l'instant, il n'est pas énorme, c'est l'équivalent du Nigeria. Mais quand même.
Mal déjà.
Donc, Podren, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement d'animateurs, d'auditeurs, de curieux. Des gens qui animent comme vous, qui là ont droit à une scène avec du public et plein de bonnes rencontres à faire sur place. Donc il y a des divertissements, des émissions, des débats d'enregistrer. Il y a une pod jam, je sais que vous êtes tous partants.
Oui, bref, mais chaud de ouf, mais chaud mon gars.
Qui est l'équivalent d'une game jam pour le jeu vidéo, mais sauf que là les équipes sont tirées au sort et chaque équipe a 2 heures pour préparer un petit podcast de 10-15 minutes. Histoire de faire naître de nouveaux concepts. Voilà,
ça se passe au camp.
Ça se passe le 31 mars et c'est pas une blague, le 1er avril.
Dans cette ferme vivent donc un couple de personnes âgées. Donc il y a le grand-père qui est impotent, incontinent, et sa femme, la grand-mère. Et donc ils vivent avec leur fils qui est qui est adulte, hein, mais qui est un individu un peu rustre qui chasse le renard. Et également,
ceci n'est pas une expression. C'est littéral. Il chasse réellement le renard. Ce n'est pas une.
Sur le coup de la blague, on m'a déjà proposé de me mettre un doigt dans le cul, mais c'était en rigolant. Et donc au final, c'est vrai que je sais même pas si elles étaient sérieuses ou pas. Mais en tout cas, je lui ai pas dit ouais, on pourrait le faire un jour. J'ai dit ouais, non, pas trop chaud.
Ouais, finalement, dans l'anus, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je sais très bien que j'ai aimé, mais ça me gêne, quoi. Je suis pas encore là, quoi. Ça me gêne. J'ai déjà tombé sur une fille qui me demandait des choses, de la violence, des insultes. Donc déjà trouver des insultes, c'est pas hyper évident.
On sait jamais comment elles peuvent le prendre.
Je pense qu'il faut rester un peu gras, espèce de goujate.
Non, tu vois. Si elle me dit juste comme ça, d'entrée de jeu, vas-y, baise-moi, ça peut être sympa. Mais si pendant l'acte, elle commence à me lâcher des trucs comme ça, vas-y, et qu'elle commence à parler pendant 3 heures. Là, ça va me faire chier, quoi.
J'ai eu une histoire vraiment embarrassante à cause de ma vidéo Riviérophile.
D'accord.
Qui a cartonné chez les lycéens.
Alors, rappelons-le, c'est que tu m'étais proche d'une rivière avec très peu de vêtements.
Bah, j'avouais mon fétiche pour la rivière, quoi. En gros, je disais que je faisais l'amour avec les rivières, mais cette masse de lycéens a vraiment pris le truc au premier degré. À un moment, je me suis retrouvée dans le métro. Il y avait deux types, genre 18 ans.
Ouais.
Mais genre, qui limite, qui écoutent PNL et qui parlent de foot, ils se retournent et ils me disent « C'est toi la nana qui baise avec les rivières ?»
Qui devrait être ta nouvelle bio Twitter. Selon je te parle, la nana qui baise avec les rivières.
Et mais tu vois, je comprenais que pour eux, tu vois, j'ai eu des commentaires du genre « Oh, j'ai vu du sperme dans l'eau !» Tu vois, mais ils prenaient vraiment ça, ils ont cru, quoi.
Quand je te dis que la réalité dépasse la fiction, c'est ce que tu vois à la télé, c'est de la rigolade à côté de ce qui existe.
Donc dans Men in Black, on a Will Smith et Tommy Lee Jones.
Ouais.
Eux, leur truc, c'est de gérer les extraterrestres sur Terre, quoi, grosso modo.
Ouais.
C'est ça. Et puis, quand on en voit, il nous passe un petit coup de machin dans les neurones qui fait qu'on se souvient plus de rien.
Apparemment, ça, c'est les petits gris. En fait, les petits gris, cette race d'extraterrestres qu'on appelle les petits gris, les moyens gris et les grands gris, c'est des esclaves des dracos. Ils ont pas envie de le faire. En fait, ils sont esclaves aussi de ces dracos et des reptiliens, donc du groupe Chimera. Et c'est eux qui font les expériences sur les êtres humains. C'est eux qui sont envoyés, qui viennent, qui prennent des êtres humains pour faire des expériences dessus. Ils les emmènent, ils les ramènent. Souvent, ils effacent, donc tu sais pas ce qui s'est passé. Tu te dis, c'est bizarre, mais voilà, mais
ça sont les petits gris.
Les petits gris. Il y a les petits gris, les moyens gris et les grands gris.
Comme les escargots.
Voilà.
Et il nous a laissé un message pour vous. On va l'écouter, puis...
C'est pas bien.
Et on en parle après.
On l'écoute tout de suite.
Putain.
Alors
c'était assez lourd.
Ouais,
D'avoir parlé de Tintin.
Bah voilà, Tintin, et c'est Spielberg lui-même qui le dit. Indiana Tintin. Jones, c'est Tintin. Spielberg est un amoureux de Tintin. De son vivant, d'ailleurs, Hergé disait, si une personne doit un jour réaliser un Tintin, ce sera Spielberg.
Eh ben, on a vu le résultat. Merci, merci.
Je l'ai pas détesté, mais c'est pour un autre débat. On pourra en reparler à la fin. Et donc, et tout y est. Les aventures donc où le héros va de péripétie en péripétie, le héros qui se fait capturer et qui se libère, les méchants un peu caricaturaux et qui sont souvent en perdition à cause de leur travers.
Jonathan, la Bible.
Ah voilà, et voilà, et voilà.
La Bible.
Voilà. Tintin au Congo.
La Bible. Mais des négationnistes. Tintin au Congo.
On n'a même pas encore parlé des Allemands des années 30-40 que vous êtes déjà sur Tintin au Congo. Ça part déjà en vrille.
Je pense que dans le fond. Le vrai créateur, il va pas chercher de subvention. J'en ai eu une pour un jeu et Elle m'a bien aidé à titre personnel d'ailleurs, parce que il y a pas tous les jours, on n'est pas toujours, ça marche pas tous les jours bien.
Pourquoi le vrai créateur va pas chercher de subvention?
Parce que tu perds du temps déjà. Tu perds énormément d'énergie à faire un dossier que tu devrais mettre dans ton jeu, et t'as vraiment pas de l'énergie à perdre quand tu fais un jeu vidéo ou une œuvre. Et même je pense que le cinéma et la série télé c'est pareil, parce que c'est très, enfin tout le moindre seconde compte.
Là c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Et le problème aussi c'est que quand tu demandes une subvention, tu vis au rythme de la subvention, c'est-à-dire que déjà comme t'es pas censé avoir commencé le projet avant de toucher la subvention, parce que tu vas pas dire je voudrais une subvention pour ce projet et tu vas pas le faire avant, donc tu peux pas le faire avant de toucher la subvention. Après, ils te la donnent parfois en deux fois, en deux, trois fois. Et après, il faut que tu le sortes. Enfin, comment dire? Enfin, t'as des milestones. Donc, en gros, t'as une administration qui décide du rythme de ton projet, alors qu'on est dans un maelstrom.
Lui, il s'est servi énormément de ça pour faire ses expériences, et en fait, il s'est servi de ce que disaient les humos. Et on s'est aperçu que les humains, ils s'appellent. Il y en a qui les appellent les humites, mais ils aiment pas qu'on les appelle les humites. Ils s'appellent les humains. Ils habitent sur Humo, la planète Humo. Et ces gens-là nous ont donné des principes de physique dans les années 60 que nos physiciens ont découvert dans les années 80. Et là, ils se sont dit, oh putain, mais ils avaient raison, en fait. Des trucs très précis, quoi. Et toutes les lettres, elles sont sur le site, tu peux toutes les lire. Elles sont toutes là, les lettres.
Bon, et ben, on va faire une petite pause, hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui.
D'accord.
Bah oui, je suis d'accord maintenant.
On va regarder un peu le courrier.
À l'heure où il chante cette chanson, c'est devenu un vieil homme. Tous les 25 avril, il regarde le défilé de commémoration, l'Anzac Day, qui est l'équivalent du 11 novembre chez nous. C'est la plus grande commémoration militaire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il décrit ses anciens camarades qui marchent fièrement en souvenir d'une gloire passée. Mais lui n'y voit que des vieillards usés, les héros oubliés d'une guerre oubliée. Et quand les jeunes lui demandent pourquoi il y a ce défilé, il dit qu'il se pose lui-même la question. And I asked myself the same question. C'est une phrase toute simple qui dit mieux qu'un long discours à quel point la guerre est vaine. C'est absurde d'y voir un motif de fierté. Il n'y a rien de glorieux à se faire arracher les jambes, ni les bras, ni à mourir, hein, d'ailleurs. Et l'orchestre s'obstine à jouer Waltzing Matilda pendant ce défilé, alors qu'année après année, les hommes sont de moins en moins nombreux à parader, et bientôt ils seront tous morts. Someday no one will march there at all, dit le narrateur.
Il y a une tournée qui a suivi ce disque, évidemment, donc il a joué soir après soir ces morceaux tristes, voire un peu morbides, et ça l'a pas mal miné. Surtout que si on rajoute à ça le stress des concerts, la fatigue et tout ça, bah il était vraiment épuisé émotionnellement à la fin de la tournée. Donc il voulait un changement, il voulait que ça aille mieux, il voulait se tourner vers quelque chose de plus lumineux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du temps pour lui. Il s'est vraiment accordé une période de conscious recovery, comme il dit. Il s'est posé chez lui, à Los Angeles, et il a juste fait des choses qu'il aimait. Il a regardé des cartoons, il faisait du sport, il jouait à des jeux vidéo, et l'année dernière il était toujours dans ce mood là de prendre du temps pour lui tout en étant vachement prolifique, puisqu'il a sorti deux albums en 2017. Le premier, Abysma, sous le nom de Geotic, c'est de l'électro assez atmosphérique. Et son objectif, en fait, avec ce disque, c'était de créer un équivalent musical à ce cocon dans lequel il était. Donc chez lui, à faire des choses qu'il aimait, à se sentir bien. Donc globalement, si vous cherchez de la musique d'ambiance, de la musique de fond, pour quand vous êtes chez vous, en mode burrito dans votre couette, avec un livre et votre 18e tasse de thé dans les mains, bah Abysma est pour vous.
Là, aujourd'hui, j'ai un sac Chanel, j'ai un portefeuille Vuitton, j'ai une petite trousse à maquillage Vuitton, j'ai des diamants aux oreilles qui doivent faire autour de 20-25 000 euros. Je suis en pyjama, quoi, pour moi, tu vois, j'ai dormi avec, voilà. J'ai quoi bon, voilà, j'ai des petits colliers autour du cou, mais ça vaut pas très cher. 500 euros, j'en sais rien, enfin, je sais même pas combien ça vaut, ouais, 500 euros. Non, j'ai une veste Clignancourt à 10 euros. Une veste que j'ai pris au marché aux puces. C'est cool, non? Je suis cool quand je dis ça ou pas?
Effectivement, les gens, à partir du moment où on a parlé, parce qu'en fait, la transphobie, toutes ces choses-là existent parce que les gens ont peur de la différence. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui, avec des mots très très simples, explique les choses clairement, ben les gens se disent, bah oui, en fait, après tout, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si sorcier que ça. Voilà. Et du coup, ben les gens l'acceptent beaucoup plus. Je veux pas dire que ça se fasse très 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 facilement. Ça demande du travail un petit peu de tout le monde. Faire une transition, c'est un tsunami sur votre environnement, c'est un tsunami sur votre famille, c'est vos amis, et ainsi de suite, à qui, en fin de compte, eux aussi vont faire une transition.
Il n'y a pas de personnes qui sont au courant de ce passé-là que j'ai eu, mais que j'ai dit à l'occasion que ce sont, c'est ma sage-femme qui m'a guérie.
Wow.
Parce que elle m'a tellement donné confiance en moi, là. Elle m'a donné confiance en mon corps. Mm-hmm. Ce corps qui était mal aimé, là, ben, j'ai appris à l'aimer. J'ai vu à quel point il était puissant. Il a fait grandir un bébé pendant 9 mois, un bébé parfait. Mm-hmm. Puis, je lui ai donné naissance de façon naturelle. Moi, je suis émotive. J'étais capable... Ouais, mon corps a été capable de donner naissance à cet enfant-là de façon naturelle. Puis ça a été pour moi extraordinaire.
Wow.
Ouais. Elle m'a appris à aimer ce corps-là puis à dire « Wow, il est puissant. »
On ne dort pas assez. On dort de moins en moins. Nos enfants ne dorment pas assez et ne pas dormir assez, bah c'est pas juste être un petit peu fatigué et lâcher un bâillement entre 2 plats d'escargot ou fouquettes. Non, c'est augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, d'accident de la route, de dépression. Bref, c'est vraiment se niquer la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, qui l'invente, qui exagère. C'est écrit noir sur blanc sur le site de la Sécu. Ce ne sont pas de mini-effets secondaires responsables dans un cas sur 12 millions de risques. Non, c'est absolument irresponsable de véhiculer cette idée que dormir 3-4 heures, c'est hype, c'est fun, c'est cool, c'est bien, c'est Startup Nation. Et sans déconner, je suis en colère, je trouve ça grave.
On nous apprend dans les films et les séries et les livres que si on donne tout, on arrivera à tout. Que rien n'est insurmontable tant qu'on se donne corps et âme, qu'on ne lésine pas, qu'on se jette dans la bataille. Mais la réalité n'est pas la fiction. Et il suffit d'une chute de neige inattendue, d'un méchant bug ou d'un microbe qui traîne pour que le plan déraille. Quand il ne s'agit pas tout simplement d'une question de timing ou d'une malveillance d'autrui. C'est difficile, mais il faut apprendre à l'accepter. Ça va contre tous nos acquis culturels, évidemment, contre cette idée que tout est possible quand on y met du sien. Mais il est sain de réaliser que ce n'est pas le cas et de savoir vivre avec. L'échec fait partie de l'essai, de la tentative, tout ne réussit pas. Ça ne fonctionne pas comme ça en dehors des histoires et des contes de fées. Accepter que tout ne dépend pas de soi, c'est aussi perdre une partie du contrôle que l'on aimerait avoir sur sa vie. Ou plutôt, c'est réaliser qu'on ne l'a jamais eu.
Ce jour-là, j'ai fait vraiment le pire. C'est-à-dire que j'ai fait 2 tours, 20 km, et j'ai abandonné. Je me suis assis sur un trottoir, c'était à Boulogne-sur-Mer, donc t'imagines bien que j'ai pas été soutenu par une foule incroyable. Voilà, hors de la ville, à côté d'une falaise, je m'oppose, je voyais la mer, et j'ai passé 3 quarts d'heure à pleurer, quoi, et à comprendre. Et à ce moment-là, je retourne au camion, mon manager vient me voir, c'était Eddie Senior, qui a été 10 fois champion de France de chrono, donc un mec, un des plus titrés de France sur cette discipline. Et il me dit, déjà, il me parle pas pendant 10 minutes, puis à la fin, quand il a parlé à tous les mecs, il vient me voir, il me dit, il s'est passé quoi ? Comme ça, comme je le dis, et je lui dis, bah, j'étais pas bien. C'est pas une raison, personne n'était bien, c'est un championnat de France, ça roule vite. Je lui dis, mais j'étais vraiment pas bien. Il dit, ok, je te ramène pas. Je dis, je comprends pas. Il me dit, je te ramène à aucune gare, tu te débrouilles. Et en fait, quand il me dit ça, je comprends que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, à ce moment-là, est détruit par une seule personne. Et en fait, c'était pas à cause de lui, c'était à cause de moi. C'était juste que j'étais pas sur mon chemin, j'étais pas dans mon projet, dans ma réussite, j'étais pas fait pour ça en fait.
J'ai découvert le cécifoot, donc football adapté pour les malvoyants et pour les non-voyants.
Et quand tu découvres ce sport, quelles étaient tes premières sensations, tes premières impressions ?
Ah, pour être sincère avec vous, Abdallah, j'y croyais pas. J'étais vraiment enthousiasmé. J'étais très enthousiaste. J'y croyais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment les gars font pour ne pas voir et jouer au foot et jouer aussi bien ? Et je me souviens sur les première fois que j'étais au bord du terrain, donc évidemment je jouais pas, mais j'étais à l'écoute de ceux qui jouaient, donc des joueurs, j'étais à l'écoute des encadrants, et je trouvais ça vraiment magnifique, le fait de surpasser son handicap et le fait de jouer et de bien jouer. C'est pas juste jouer au foot, c'est de bien jouer au foot et de pouvoir donner du plaisir, transmettre du plaisir aux autres, transmettre cette joie de jouer au foot.
Mais quand on voit les deux effectifs, un Real PSG, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus fort des deux côtés sur le plan collectif. Donc assez déçu sur ce volet-là. Et au final le 3-1, merci Raphaël qui est malade.
Pardon, j'ai essayé de désactiver le micro puis en même temps c'était impossible. Pardon.
On continue, on se laisse pas déconcentrer.
C'est le plus spectaculaire, le laser, parce que vous allez dans une clinique en Autriche et il y a des personnes en blouse blanche avec un accent allemand assez prononcé qui vous disent now you must go into the laserization of your blood. Et donc on est allongé et là c'est quand même pendant une bonne heure avec un laser dans la veine qui est d'abord jaune et puis ensuite rouge. Ouais. Et puis c'est assez disco quoi. Enfin, et puis il y a le côté Dark Vador aussi, c'est assez plaisant.
Et on sent disco de l'Autriche
oui.
qui manque un peu parfois dans les montagnes. C'est une expérience dont on sort renouvelée ou c'est purement un effet placebo?
Je peux pas vous dire si c'est placebo ou non, mais je me suis senti assez régénéré pendant une bonne semaine. Et il paraît que c'est considéré comme un dopant. Les sportifs n'ont pas le droit de le faire.
D'accord.
Donc attention, l'assurance vie, pas un placement si simple. Il faut bien connaître les règles, encore une fois. Merci à tous les quatre. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.
Bon, ça y est, c'est fini.
Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.